L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore une fois aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème la parabole du fils prodigue. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi pour entendre ta parole, pour entendre tes instructions, pour entendre tes directives, Seigneur. Bénis les différents auditeurs. Bénis les différents partenaires qui nous aident à faire connaître ce message dans le monde francophone, Seigneur. Sauve, guéris, délivre. Fais du bien à un homme, fais du bien à une femme. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. La parabole du Fils prodigue. Dans Luc 15, de 11 à 24, il est dit ceci. Luc 15, 11 à 24. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, il se trouvait dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Alors le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Car voici mon fils qui était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. C'est une très belle histoire qui nous parle à la fois de rébellion, de repentance, de pardon, d'amour, de compassion, de restauration. C'est une parabole et comme nous le savons tous, une parabole est un enseignement spirituel illustré par des faits de notre vie de tous les jours. Jésus enseigne les vérités du monde spirituel en utilisant comme élément les choses que nous connaissons dans notre vie de tous les jours. Un père avait deux fils. Ça, nous le connaissons tous, peu importe la société, peu importe le niveau de classe sociale, peu importe la classe, peu importe le niveau intellectuel. Un père peut avoir plusieurs enfants. C'est l'histoire d'un enfant rebelle qui va briser sa relation avec son père. Parce qu'il veut plus, il veut être plus indépendant. Il veut être autonome. Il ne veut plus dépendre de la supervision, des conseils, de la protection de son père. Le père représente Dieu. Mon frère, ma sœur, pour moi, cette parabole s'applique aussi aux enfants de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Nous avons tendance à croire, nous les enfants de Dieu, que les choses qui sont dans le monde sont meilleures que celles qui se trouvent dans la maison de notre Père Céleste. Nous avons tendance à croire que nous serions plus heureux avec des choses qui nous sont interdites par Dieu. C'est comme ça qu'a réfléchi le fils cadet. Il a vidé toute sa fortune dans la débauche. Il a vidé toute sa fortune dans le péché. Combien d'enfants de Dieu sont convaincus, jusqu'au moment où ils écoutent cette parole, que la pornographie est quelque chose de bien, que des fois même la drogue, l'alcoolisme, le vol, l'avortement, l'occultisme, la magie, sont des choses qui sont bénéfiques pour leur vie de tous les jours. Combien sont convaincus que c'est une très bonne chose d'être la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, peut-être même la millième femme d'une grande autorité. J'ai même entendu un pasteur raconter l'histoire de sa nièce ou de sa sœur, qui était devenue deuxième femme d'un dignitaire. Ce monsieur disait que quand sa nièce lui rapportait les faits, il disait « Dieu a fait grâce que j'ai trouvé un mari. » Mais Dieu a fait grâce que tu ailles détruire le mariage, le couple, le mariage d'une autre femme. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu commencent à réfléchir. Le péché est devenu trop succulent. Le péché est devenu trop agréable. Alors que la fin du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand il aura tout dépensé, il va se retrouver dans le besoin. Et là maintenant, le paternel n'est plus là. Le père n'est plus là puisqu'il a brisé sa relation. Il part se mettre au service d'un homme qui va lui demander de garder des choses qui pour ce jeune homme sont considérées comme étant des choses impures. Vous imaginez? Il a vécu dans des choses impures, maintenant il se met à garder des choses impures. Voilà ce que fait le péché dans nos vies, ça nous rabaisse. Les gens nous voient grands, les gens nous voient forts, mais lorsqu'on commence à vivre dans le péché, on est en train de perdre, et particulièrement aux yeux de Dieu. Nous devenons plus vils que le diable lui-même, si je puis dire. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui joue dans la boue, il lui est impossible d'être propre. Mais pire encore, par rapport à ce jeune homme, il est affamé, on ne lui paye même pas. Et il aurait voulu même manger la nourriture des animaux impurs, pour dire qu'il est descendu tellement bas. Et puis à un moment, il va, quoi je me complique la vie? Les serviteurs de mon père sont mieux traités. J'irai vers lui. Et je vais me repentir. La repentance, c'est regretter le mal qu'on a fait à Dieu. C'est regretter le mal qu'on a fait aux autres. Mais une vraie repentance, c'est le fait d'abandonner le péché. C'est le fait de regretter, de confesser devant Dieu qu'on a mal agi. Il y a certains qui se repentent parce qu'on les a attrapés. Non. C'est pas une mauvaise chose de se repentir une fois qu'on a été attrapé. C'est pas une mauvaise chose. Mais l'idéal serait été de se repentir dès que le Saint-Esprit est en train de vous convaincre que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Et la repentance s'accompagne toujours des actions. Une vraie repentance s'accompagne d'actions qui correspondent à la repentance. Vous étiez un adultère? Vous vous repentez de cette vie d'adultère, ben vous arrêtez votre relation adultérine. Vous étiez un voleur, vous arrêtez de voler, vous cherchez maintenant à gagner honnêtement votre vie. Vous étiez un meurtrier, ben vous arrêtez de tuer. Vous étiez un occultiste, et ben la repentance, l'acte qui prouve que vous vous êtes repenté, c'est d'abandonner toutes ces choses sataniques, diaboliques. Des sociétés secrètes, vous les livrez, vous les brûlez, vous les sortez, vous les jetez, vous les détruisez. Vous cassez toute relation avec le diable. C'est ça une vraie repentance. Mon frère, ma sœur, Dieu vous aime. S'il permet que vous écoutiez cette émission, c'est parce que il vous aime. Il ne veut pas vous perdre. Moi, je suis convaincu, comme je dis, que cette parabole s'applique d'abord aux enfants de Dieu. Elle s'applique d'abord aux enfants de Dieu parce qu'on parle de deux enfants qui sont dans la maison de leur père. On ne parle pas des gens qui sont à l'extérieur de la maison de leur père. Elle peut aussi s'appliquer aux païens, il n'y a pas de problème. Mais elle s'applique aussi aux enfants de Dieu. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions étudier un peu l'attitude du père par rapport au fils prodigue. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Ça, c'est magnifique. On ne nous dit pas exactement qu'est-ce que le père faisait pour qu'il ait constaté qu'il voit son fils arriver. Beaucoup de prédications ont fait des simulations, c'est une très bonne chose. Et je ne vais pas contredire cela. Mais nous sommes tous d'accord sur le fait que le jeune homme rentre. Et pendant qu'il est en train de rentrer, son père, de loin, le reconnaît. Comme pour dire, mon frère, ma soeur, Dieu vous connaît. C'est un peu comme ce genre d'histoire quand vous êtes marié. Vous avez vécu plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années avec votre femme. Il vous suffirait d'être dans un endroit où il y a un assez grand bruit, que votre femme vous appelle. Vous allez distinguer sa voix parce que vous êtes intimement lié à cette personne. Il arrive des fois, vous êtes dans une autre pièce, vous sentez la sensation que votre femme a besoin de vous. Vous allez la voir, elle vous dit, je ne t'ai pas appelé, mais j'avais besoin de toi. Pourquoi? Parce que spirituellement, vous êtes liés. Je ne sais pas si je puis dire ça par rapport au cas de ce jeune homme. Mais n'est-il que son père l'a vu de loin et l'a reconnu? Combien de temps se sont passés? La Bible ne nous dit pas. Mais suffisamment, il y a suffisamment de temps qui se sont écoulés pour que ce jeune homme ait maigri, pour que ce jeune homme n'ait pas gardé les mêmes habits qu'il avait lorsqu'il a quitté la maison de son père. Peut-être même qu'il n'était même pas allé chez le coiffeur depuis plusieurs semaines. Peut-être même que la barbe était sortie. Mais son père le voit de loin et il le reconnaît. Il reconnaît que ça, c'est son fils. Il reconnaît que celui-là, c'est son fils. Mon frère, ma sœur, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, peu importe ce que là où les hommes vous ont placé, je suis venu vous dire que Dieu vous connaît. Et puisqu'il vous connaît, il a aussi un plan pour votre vie. Il vous reconnaîtra entre mille. Vous êtes unique. La Bible dit, je suis une créature merveilleuse. Vous êtes une créature merveilleuse. Vous êtes unique. Il n'y a pas deux comme vous. Même si vous avez un frère ou une sœur jumelle, même si vous vous ressemblez à 99%, il y a quand même 1% qui prouve que vous êtes différent de lui. Et Dieu sait vous reconnaître entre 1000, entre 10 000, entre 15 000, parce qu'il vous a créé avec amour. Il vous a créé avec passion. Ah, si j'étais à votre place, je dirais merci Jésus. Merci Jésus. Dès qu'il le voit, il est ému de compassion pour son fils. Je définirais la compassion comme ceci. Souffrir avec. Quand le père voit son fils, sa première réaction n'est pas la colère. Sa première réaction n'est pas la haine. Ses premiers sentiments ne sont pas la haine. Ses premières paroles ne sont pas des paroles méchantes et blessantes. Ça t'apprendra. Tu as eu. Tu as compris. C'est bien fait pour toi. Non. La première chose que le père ressent, c'est de la compassion pour son fils. Pour son fils qui était perdu. Pour son fils qui était mort. Pour son fils qui était déchu. Pour son fils qui a été lié par le péché. Pour son fils qui a été lié par la débauche. Par son fils qui a été lié par la pauvreté, la maladie, l'échec, le manque, la mort spirituelle. Quand Dieu vous voit, vous qui avez rétrogradé dans la marche chrétienne, quand Dieu vous voit, il ne voit pas d'abord la colère, il voit de la compassion. Et vous savez qu'est-ce que fait cette compassion? Il fait qu'il envoie des hommes et des femmes dans le monde entier pour venir frapper à votre porte et pour vous dire qu'il vous aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous pouvez remplacer le mot « monde » par votre prénom. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Dieu a tant aimé Rose qu'il a donné Jésus-Christ. Dieu a tant aimé Junior qu'il a donné Jésus-Christ. Dieu a tant aimé Martine qu'il a donné Jésus-Christ. Quand Dieu nous regarde, d'abord ce n'est pas la colère qui se manifeste, c'est la compassion. La compassion, ça veut dire qu'il souffre avec nous. Il comprend ce que nous sommes en train de vivre. Il comprend. Il le vit au travers de nous. Il le ressent au travers de nous. C'est parce qu'il est plein d'amour. Vous savez, même si l'homme ne vit pas en harmonie avec Dieu, il est séparé avec Dieu, Dans cet homme, il y a quand même l'empreinte et l'image de Dieu dans cet homme. Voilà pourquoi Satan veut tout détruire. Voilà pourquoi Satan veut vous détruire. Parce que même séparé de Dieu, vous avez l'image de Dieu en vous. Quand Satan vous regarde, il voit l'enfant de Dieu. Lorsque moi je vous regarde, n'ayant pas vu Dieu avec mes yeux physiques, j'ai du mal à le reconnaître en vous, si ce n'est que par la foi que j'ai par rapport à la Bible. Parce que la Bible me dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu détestes celui que tu vois qui a été fait à l'image de Dieu? Ouais. Donc je n'ai que ce verset pour dire que vous êtes à l'image de Dieu. Mais Satan, lui, il connaît Dieu, il a vu Dieu, et il voit en nous l'image de Dieu. C'est très simple, c'est un peu comme si on faisait par rapport à la peinture, vous voyez. Un artiste peut développer un style. Et quand vous étudiez son style, on peut vous présenter des œuvres, des peintures, non signées par cet artiste, mais parce que vous connaissez son style, vous savez dire, ah, ça c'est de tel. C'est la même chose avec Satan. Votre empreinte, l'empreinte de Dieu est en vous. Et quand il vous voit, quand il vous regarde, il est plein de compassion. Voilà pourquoi il ne sait pas encore détruire le monde maintenant, non seulement parce que l'Église de Jésus-Christ est là, mais parce qu'il veut que vous parveniez à la repentance. Il vous aime. Donc la première attitude, le premier sentiment que Dieu voit dans le perdu, c'est d'abord la compassion. Le premier sentiment qui vient au cœur de Dieu par rapport au perdu, c'est la compassion. Il souffre avec nous. Écoutez ce que la Bible dit dans Exode 34, verset 6. Exode, c'est dans l'Ancien Testament. Exode 34, verset 6. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu ne se précipite pas dans la colère. La colère, elle est là. Elle vient, mais elle est lente, elle vient doucement. Ce qui vient d'abord en premier, c'est la compassion. Ce qui vient d'abord en premier, c'est la miséricorde. Ce qui vient en premier, c'est il vous aime. Il vous aime, mon frère. Il vous aime, ma sœur. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, peu importe ce que vous êtes en train de faire, peu importe ce que vous êtes en train de connaître, peu importe qui vous êtes, Dieu est plein d'amour pour vous. Il veut vous récupérer. Il veut vous sauver. Il veut vous laver. Il veut vous restaurer. Il veut vous réélever. Il veut recréer en vous une nouvelle création. Mais ça dépend de vous. N'oublions pas que le Fils prodigue est revenu. Quoique nous disions que Dieu va chercher les perdus, mais il faut que le perdu accepte. Il faut que le perdu accepte le salut qui lui est offert en Jésus-Christ. Dieu souffre avec vous, qui fait qu'il envoie des hommes et des femmes vous parler de son amour. C'est sa compassion qui fait que vous écoutiez cette émission en ce moment. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Asie. Ça n'a aucune espèce d'importance, c'est la compassion de Dieu qui a fait que vous écoutiez cette émission maintenant. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu est avec vous. Matthieu 9, verset 36, il est parlé de Jésus. Matthieu 9, verset 36. Vous y êtes ? Matthieu 9, verset 36, il est dit ceci. J'aimerais commencer au verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elles parce qu'elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont point de berger. Vous voyez ? Christ est en train d'exercer son ministère et quand à un moment il s'arrête, il regarde la foule, il souffre avec la foule. Parce que qu'est-ce que la foule est en train de chercher? Des directions spirituelles, des bergers, des hommes et des femmes qui vont les écouter, des hommes et des femmes qui vont prier pour eux, des hommes et des femmes qui vont les faire connaître la vérité, des hommes et des femmes qui vont les faire connaître, qui vont les sortir du péché. Alors quand Jésus regarde ça, il est ému de compassion. Il souffre avec eux. Et c'est là où il va dire la très célèbre phrase, verset 37. La moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. C'est la compassion de Dieu qui fait qu'il envoie des ouvriers dans son champ. C'est la compassion de Dieu pour vous qui fait qu'il a financé cette émission, cette radio que vous êtes en train d'écouter. Il vous aime. Il souffre avec vous. J'aime ce que Jésus dira à Paul lorsque Jésus va rencontrer Paul sur le chemin de Damas. Jésus a posé la question à Paul. Pourquoi tu me persécutes? Attendez, quand est-ce que Paul a persécuté Jésus directement? C'est nulle part. Parce que Paul faisait qu'arrêter les chrétiens. Mais Jésus s'identifie aux chrétiens, comme pour dire, ceux à qui tu es en train de faire du mal, c'est à moi que tu es en train de faire du mal. Jésus s'identifie aussi à Israël. Il dira, quand vous faites un bien à l'un de ces petits, c'est à moi que vous êtes en train de faire. Quand nous faisons du mal à X ou à Y, c'est à Jésus qu'on est en train de faire du mal. Voilà pourquoi je peux dire avec certitude que quand on est en train de vous persécuter, Jésus est ému de compassion pour vous. Lorsque vous êtes en train de souffrir dans le péché, Jésus est ému de compassion pour vous. Alors tendez-lui la main. Répondez à son salut. Répondez à son sacrifice à la croix. Parce que c'est par amour pour vous que Jésus-Christ est mort à la croix. Jésus n'est pas mort pour le plaisir de mourir. Jésus n'est pas mort parce qu'il était pécheur. Non, Jésus n'a jamais été pécheur. Il a été rendu péché. Jésus n'a jamais péché. Si Jésus est mort, c'est pour moi, c'est pour vous. Et c'est la compassion de Dieu qui l'a poussé à mourir à la croix pour nous. Ne minimisez pas un si grand salut, ma sœur. Dans le psaume 40, verset 12, Psaume 40, verset 12, vous y êtes? Psaume 40, verset 12. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Dieu ne vous refusera pas sa compassion. Ce sentiment de souffrir avec vous. Et vous savez, le sentiment qui vient après la compassion, c'est la miséricorde. Ou plutôt, oui, je peux parler de sentiment. Ce qui vient après la compassion, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est souffrir avec quelqu'un et puis l'aider. C'est agir. Dieu ne se limite pas seulement à souffrir avec vous. Parce que s'il se limitait à souffrir avec nous, il n'aurait pas envoyé Jésus-Christ. Sa miséricorde est intervenue. Et il sauve des hommes et des femmes qui ne méritent pas d'être sauvés. Ce matin, je suivais une très belle émission d'un prédicateur américain qui parlait sur la grâce de Dieu. Il disait, je ne mérite pas d'être sauvé. Je ne mérite pas. C'est sa grâce qui fait que je sois sauvé. Alléluia. Nous ne méritons ni sa compassion ni sa miséricorde. C'est sa grâce. Alors profitez de cette grâce parce qu'elle se présente aujourd'hui. Demain, vous ne savez pas. Dans Lamentation 3, la lamentation de Jérémie, donc juste après le livre de Jérémie, Lamentation 3, verset 22 à 23, il est dit ceci. Lamentation 3, verset 22 à 23. Bon, j'aimerais commencer au verset 21. Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Les bontés et les fidélités et la compassion de Dieu se renouvellent chaque matin pour vous. Donc, au moment où vous écoutez, vous êtes en train de vivre sa bonté et sa compassion et sa miséricorde. Saisissez ça, saisissez-la aujourd'hui. Parce que demain, elle va se renouveler, mais vous ne savez pas si vous allez vivre demain. C'est ça le problème. Vous ne savez pas si vous allez vivre encore demain. Parce qu'un jour ou l'autre, nous sommes tous appelés à mourir. Vous ne connaissez pas le jour, je ne connais pas mon jour, peut-être que ce sera ce soir. Peut-être qu'ils vont vivre. Alors, au lieu de laisser les autres profiter, pourquoi ne pas aussi profiter nous aussi? Mon frère, ma sœur, profitez de la compassion de Christ. Profitez de la compassion de Dieu aujourd'hui en donnant votre vie, en venant à Jésus. Et vous voyez, il n'a pas, dans la parabole, le père n'a pas rejeté son enfant. Il n'a pas tenu des paroles dures, au contraire. Il a couru vers lui parce qu'il avait peur que le monsieur fasse demi-tour. Aujourd'hui, il frappe à votre porte pour vous dire « Je veux vous sauver ». Comment répondez-vous à son salut? Comment répondez-vous à son appel? Si vous voulez dire « Oui, Jésus, je veux te donner ma vie », répétez ces simples mots après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, me voici devant toi. J'ai entendu ton appel, j'ai entendu ton message. Je donne ma vie à Jésus-Christ. Je réponds à ton amour. Je dis non à Satan et au péché. Je dis oui au sang de Jésus-Christ. Je dis oui au salut de Jésus-Christ. Je crois et je confesse que maintenant je suis une nouvelle créature, sauvée par grâce. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou, nous nous retrouvons dans quelques instants après ce message publicitaire.
Pour votre croissance, votre édification ou votre connaissance spirituelle, découvrez l'émission « Venez à Jésus ». Écoutez et téléchargez gratuitement l'émission « Venez à Jésus » sur le site www.jesuspourtous.org. Retrouvez gratuitement les différents thèmes abordés comme l'identité du croyant en Christ, la seconde venue de Jésus, la mort de Christ et bien d'autres enregistrements. Rendez-vous sur www.jesuspourtous.org, www.jesuspourtous.org.
Bon retour à l'émission « Venez à Jésus ». Je suis Raphaël Mambou. Je suis convaincu au plus profond de mon cœur que le message que vous êtes en train d'écouter maintenant sur la parabole du Fils prodigue va changer votre vie. Pas parce que c'est la parabole du Fils prodigue, mais parce que c'est la parole de Dieu. Mon frère, mon ami, ma sœur, n'abandonnez pas Christ à cause des biens de ce monde. N'abandonnez pas Christ à cause des souffrances. Au contraire, persévérez avec Jésus-Christ. Je suis convaincu que Dieu a un plan pour votre vie. Ma prière est que vous puissiez écouter tout ce thème en entièreté. Vous pouvez nous contacter, aller sur notre site internet et télécharger gratuitement tous ces enseignements. Je suis Raphaël Mambou. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la parabole du Fils prodigue. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.